Vous écoutez Le Paradoxe du Bernard l'Ermite, un podcast produit et réalisé par Circomplexe. Face aux mutations et à l'image du Bernard l'Ermite, les entreprises sont parfois amenées à modifier leurs stratégies, leurs objectifs, leur environnement et leur comportement sans possibilité de retour. Dans cet épisode, nous recevons David Dubois. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Marco.
Vous êtes le président non exécutif d'AssureOne et le directeur des partenariats et des synergies du groupe Prévoir. Vous avez également été de 2016 à 2020 le président de l'Institut des Actuaires. Au cours de votre dernière année de mandat à l'Institut des Actuaires, en plein cœur de la crise du Covid, vous avez co-conçu et piloté un dispositif inédit, un observatoire actuariel de la crise du coronavirus. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur l'objectif de ce projet ?
L'idée de cet observatoire, mais il est venu d'un échange qu'on a eu avec à l'époque l'agence Accroche-Com, hein, Jacques Farine et Chloé Consager, en se disant il faut faire parler des actuaires. Les actuaires sont des professionnels du risque, peut-être un peu moins de l'incertitude, mais en tout cas surtout du risque. Il faut les faire parler, il faut les utiliser, il faut collecter en fait le maximum d'informations sur ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a fait en créant cet observatoire.
Qu'est-ce qui vous a surpris au cours de ce travail ?
Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'était beaucoup de lucidité, en fait. On présente souvent la profession actuarielle comme une profession pétrie de certitudes, où les actuaires sont formés à l'utilisation des modèles, arrivent avec des modèles qu'ils vont tester, avec des décisions, une capacité à faire prendre une décision sur la base des chiffres des modèles, quelque chose qui est assez... qui semble un peu immuable, hein, inscrit dans la pierre. Et en fait, je me souviens que les échanges qu'on avait à l'époque montraient clairement que c'est pas du tout ça, en fait. Que la profession actuarielle est une profession qui fait preuve de beaucoup d'humilité et qui a un regard sur les choses qui est, en général, vraiment avec du recul. On a aussi ressenti dans les échanges un questionnement, en fait, sur ce côté, à la fois, j'ai été formé en tant qu'actuaire à prédire le risque, et puis j'ai pas réussi à le faire. Et si je l'avais un peu prédit, ben je l'ai pas du tout prédit dans la forme dans laquelle il s'est matérialisé. Et donc, quelque part, ça chamboule beaucoup les croyances sur le fait que, est-ce que mon rôle d'actuaire est bien celui-là ? Est-ce que finalement, ce qu'on m'a appris est suffisant pour affronter un monde devenu de plus en plus compliqué, complexe, ambigu, hein, on parle de concept VUCA hein, aujourd'hui. On voit bien qu'on n'est plus dans le domaine du risque, hein, mais dans celui de l'incertitude, et que là, nos référentiels, nos modèles sont plus tous les mêmes. Et ça, on l'a ressenti en fait dans l'observatoire comme étant, non pas un éboulement des croyances, mais un questionnement en fait sur ces croyances.
L'un des faits marquants qui ressort de cette étude, c'est l'interrogation d'une grande partie des actuaires quant à leur rôle au sein de l'entreprise, le sens qu'ils peuvent trouver face aux multiples mutations en cours, qu'elles soient éthiques, sociales ou environnementales. Quelle réflexion est-ce que ça a soulevé chez vous ?
En fait, je pense que les préoccupations, elles arrivent aussi parce que les réglementations changent. On peut se sentir extrêmement sensible à l'environnement, se dire que dans son travail actuariel ou dans son travail, quel qu'il soit, il faut intégrer la dimension environnementale, sociale, éthique. Mais il faut être clair, c'est pas toujours facile à l'appliquer au quotidien. Et qu'en général, quand la réglementation, elle vous y contraint, elle contraint l'entreprise, et que généralement, si ça se passe pas comme la réglementation le demande, vous avez un risque de sanction. En général, ça vous aide beaucoup à faire bouger les lignes. Donc on a ça aussi, c'est-à-dire que dans les travaux actuariels d'aujourd'hui, on voit bien que la réglementation qui a évolué énormément sur les questions RSE, hein, en général, ben quelque part, elles amènent de l'eau au moulin, hein, elles amènent des éléments à la réflexion pour les travaux actuariels et elles nous aident aussi peut-être à les faire bouger. Alors, ça soulève quand même de grands sujets, hein, parce que quand on parle de mutations environnementales, par exemple, ou de conséquences à long ou à très long terme du réchauffement climatique, même si on en mesure un peu, beaucoup, les effets aujourd'hui, la retranscription dans les modèles actuariels, elle n'est pas facile. Là aussi, quand on a une formation d'actuaire, on nous enseigne certains modèles éprouvés, historiques, dans lesquels on croit, les lois de mortalité s'établissent de telle manière, avec tel référentiel. On modélise les catenates comme ça, et ainsi de suite. Sauf que là, on voit bien aujourd'hui que tous ces modèles sont chamboulés, et donc il faut retravailler la manière d'apprécier les risques, d'arriver à avoir des modèles peut-être un peu moins certains, où la part de l'incertitude, elle est intégrée nativement dans ces modèles. Donc ça veut dire se remettre en question aussi sur sa manière de travailler, sur ses croyances professionnelles, sur la technique. C'est pas facile quand on a travaillé pendant 20 ans dans de la modélisation actuarielle, de se dire que finalement, ce qu'on a fait pendant 20 ans fait peut-être pas tout à fait sens dans l'environnement d'aujourd'hui, et que pour les 20 prochaines années, il va falloir adapter ces méthodes, tout en sachant que n'y a pas suffisamment de guidance pour vous donner les bonnes lignes de conduite. Donc ça veut dire aussi une prise de risque personnelle pour faire évoluer ces méthodes et ces modèles.
C'est une expression qui revient souvent dans le rapport sociologique, et vous le dites encore ici, c'est la faculté à avancer dans un contexte d'incertitude. Selon vous, est-ce que c'est précisément cette capacité qui permet de faire face aux transformations ?
Quand je suis face à un risque, je vais essayer d'analyser les différents états de la nature, je vais essayer de probabiliser, et puis on voit bien que on va s'orienter ou prendre une décision qui va adopter une certaine forme de rationalité. Il y a tout un pan de la théorie économique qui nous explique tout ça, et finalement ça marchait assez bien dans certains univers. L'incertitude, elle vient chambouler. Elle vient chambouler tout ça parce que finalement, quand on est en situation d'incertitude, eh bien, on n'a plus vraiment de probabilité objective. Déjà, on ne sait pas vraiment quels sont les états de la nature. C'est-à-dire que je suis face à un problème, je ne peux pas dénombrer les différents états de la nature possibles, je ne sais pas vraiment quelles vont être les conséquences en cas de survenance. Et puis en plus, même si j'arrive à faire quelque chose, je vais avoir du mal à les probabiliser. Et malheureusement, quand on doit prendre une décision, on a un référentiel, et je pense que c'est l'éducation qui est comme ça, ou peut-être aussi l'esprit humain. On a besoin de faire un peu de calcul, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de certain ou quelque chose dans lequel on croit. Face à l'incertitude, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, face à une situation incertaine, sont un peu tétanisés et ça ne les fait pas avancer. Le problème, c'est qu'il faut accepter une part de vulnérabilité personnelle quand on est en situation d'incertitude. On va se tromper, c'est sûr qu'on va se tromper. C'est le principe même de l'incertitude. Le tout, c'est de savoir prendre ou d'amener de la matière qui va nous permettre de prendre une décision. Donc on la prend soi-même, on la fait prendre par quelqu'un avec suffisamment d'informations. Et c'est ce qui va nous permettre de minimiser les conséquences de l'incertitude, c'est justement cette capacité à regarder le problème de manière très holistique, avec beaucoup d'agilité, en oubliant un peu ces référentiels mentaux, ces modèles qui sont inscrits quelque part dans la tête, et en étant capable de remettre en question, en fait, cette manière de fonctionner qu'on a appris ou qu'on a utilisé depuis très très longtemps. Donc moi, je pense que vraiment, dans des situations d'incertitude, il faut accepter d'être vulnérable d'une certaine manière, et je pense que il y a une question de posture, en fait, devant l'incertitude. La posture devant l'incertitude, c'est je n'arrive pas avec mes croyances dans lesquelles j'estime qu'elles sont totalement infaillibles, ça marche pas. Je n'arrive pas, en fait, devant une situation d'incertitude en n'écoutant pas les signaux, y compris les signaux faibles. Je travaille aussi avec toutes mes parties prenantes, parce qu'en général, on s'aperçoit quand même, et là, c'est pas de l'actuariat, c'est du fonctionnement collaboratif, que l'intelligence collaborative est quand même meilleure que la prise de décision de l'intelligence personnelle. Donc là aussi, en situation d'incertitude, ce qui me semble important, c'est qu'on ait vraiment un travail de collaboration, finalement, avec les parties prenantes, avec ceux avec qui on va devoir gérer le problème qui se présente. Donc là aussi, c'est un état d'esprit qu'il faut faire changer.
L'absence de changement de comportement durable faisait justement partie des craintes exprimées par les actuaires interrogés dans ce rapport. Est-ce que vous voyez d'autres freins à la mise en place de ce changement ?
Alors là aussi, c'est pas que le Covid, c'est la transformation numérique, c'est la concurrence, c'est l'émergence de plein de nouveaux acteurs, il y a tout un faisceau d'éléments qui sont venus bouleverser tout ça, mais n'empêche que les conséquences pour la personne aujourd'hui, c'est que je ne peux plus croire que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui sera celle dans laquelle je serai encore dans 10 ans, voire même dans 1 an. Et donc du coup, il faut accepter cette part de vulnérabilité face à l'incertitude et face au changement, à accepter aussi l'accompagnement et se faire accompagner de managers. Alors, du coup, quand on dit ça, pour moi, ça soulève aussi une question de formation des managers. On ne forme pas les managers à l'incertitude. Pour avoir eu la chance de faire différents types de formations universitaires ou écoles de commerce, on forme quand même plutôt, on forme les universitaires à penser, pas toujours à agir. On forme dans les écoles de commerce des personnes à agir, pas toujours à penser. Alors c'est un peu caricatural hein, ce que je raconte bien évidemment, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que les managers, eux, ils ont des contraintes, c'est qu'il faut arriver aux objectifs fixés par l'entreprise. Et ces objectifs, parfois, ils sont délirants. Délirants par rapport à l'environnement économique, à la capacité de l'entreprise à faire, à l'horizon temporel qu'on nous impose. Et donc, du coup, derrière, aujourd'hui, les managers, ils vont être en mode de forcer, en fait, la marche en avant. On ne forme pas les managers à l'incertitude. On ne leur apprend pas de temps en temps à prendre du recul, à faire un lessons learned de ce qui s'est bien passé ou mal passé, qui permet finalement de monter étape par étape. C'est des choses aussi sur lesquelles il faut travailler. Le changement, il est difficile pour un être humain. Il y a une réaction naturelle au changement. Il est difficile aussi pour une entreprise, parce que derrière, c'est des questions d'organisation, de révision stratégique, d'admettre aussi que on s'est trompé. Potentiellement, on se soit trompé dans la prise de décision passée. Et puis derrière, c'est la question de l'accompagnement au changement. Et donc, effectivement, là, comment l'organisation est prête à mettre en place un accompagnement pour ses collaborateurs et donc tout l'encadrement, comment l'encadrement s'adapte aussi à cette période difficile.
Pour le dirigeant qui conduit une transformation, une forme de paradoxe peut se créer. C'est d'ailleurs la référence faite dans le titre de ce podcast. Ce paradoxe consiste à être convaincu de la nécessité de se transformer, mais aussi craintif d'écorner le modèle qui a fait la réussite de l'entreprise jusque-là. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je fais partie des gens qui sont naturellement optimistes réalistes. C'est-à-dire que je pense qu'on va trouver des choses bien un peu partout, mais je pense qu'il faut être très réaliste sur ses capacités à le faire, sur la manière dont on va le faire et surtout pas croire que finalement tout ce qui a bien marché avant continuera demain indépendamment de ce qui se passe autour de nous. C'est très bien de se challenger, c'est très bien de réfléchir à comment le monde bouge, à sa capacité aussi à faire, parce que peut-être il y a 10 ans on était performant sur son marché et que malheureusement on continue avec les mêmes métriques, avec les mêmes approches d'un marché qui lui a complètement chamboulé. Le client des compagnies d'assurance d'aujourd'hui est probablement pas le même client que les compagnies avaient il y a 10 ans parce que bah, les gens ont des attentes différentes, ne vivent plus pareil, ont une manière, ont des cycles de vie différents. Et donc, quelque part, si on se réfugie derrière ces croyances historiques, derrière un modèle passéiste qui a fonctionné, on risque quand même de rater quelque chose. Alors, souvent, on le voit pas. On le voit pas tout de suite parce que quand on évolue dans un milieu un peu privilégié, et l'assurance est quand même un milieu privilégié, on peut se laisser bercer par une espèce de douceur estivale, en fait. C'est-à-dire que pour que l'assurance trinque, il faut vraiment que tout chamboule autour de nous, quoi. Et on voit bien aujourd'hui que même le Covid, ok, ça a créé quelques perturbations, mais les assureurs s'en sont plutôt bien relevés, comme les banquiers d'ailleurs. Dans un univers d'incertitude, je suis obligé de jouer avec des armes différentes. Les armes différentes, c'est quoi ? C'est, je dois avoir une vision. Si j'ai pas de vision, je suis dans un chemin aléatoire. Et en incertitude, en fait, chaque information que je vais recevoir va me faire modifier ma vision et le cours des choses. Donc, je dois déjà avoir une vision. Deuxièmement, je dois avoir une capacité à comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe, ça veut dire que j'ai la bonne information au bon moment, que je l'interprète bien. Et là, bah forcément, j'aurai des signaux peut-être différents, une forme d'ambiguïté dans les informations qu'il va falloir que je retravaille à un moment et avec là aussi beaucoup de lucidité. J'ai besoin aussi d'adaptabilité et d'agilité. C'est-à-dire que je peux pas considérer que même si j'ai une vision, même si j'ai une information, eh bien, je reste quand même dans mon cadre. Tant que je me sens pas trop affolé parce que les signaux sont un peu faibles, je considère que je continue à faire comme avant. Même les signaux faibles sont importants. C'est-à-dire qu'un signal faible aujourd'hui peut être un signal fort demain. Et donc, il faut commencer à le regarder, à l'analyser, éventuellement à adapter l'organisation, le business model, ou je ne sais quoi, de manière régulière. Et tout ça, il faut le faire sous une ombrelle, en fait, de clairvoyance. Moi, je reste assez persuadé qu'il ne faut pas se fermer les yeux, en fait. Moi, je doute tout le temps. Je pense que ça fait partie de ma nature. Hein, et ça ne me dérange pas de douter, en fait. Quand j'étais plus jeune, je sentais ça comme une faiblesse. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que quand on doute, on a moins de chances de se tromper. Ça ne m'empêche pas de décider rapidement s'il y a besoin de le faire, mais pas n'importe comment. Donc je pense que c'est vraiment ça. À la limite, doutez un peu, restez pas pétri de vos certitudes. Ça aide à avancer.